bas, Yann, c'est monde ici, on respire plus.
La fiction et la réalité.
Non, le cinéma, c'est pas mon truc.
Moi, j'adore ça.
C'est vraiment un avis, ce film.
Je trouve bon, ce film.
Et je te raconte. Voyons voir.
Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment ça va ?
Eh ben ça va super et aujourd'hui on s'envole vers d'autres cieux si je puis me permettre.
Oui, aujourd'hui on vous parle du dernier grand film d'animation en date de Mamoru Oshii, où il semble atteindre la limite de son cinéma, contemplatif, introspectif, mélancolique, et privilégiant de longues réflexions sur la place et le but de la jeunesse actuelle, au milieu de quelques sursauts techniques en plein ciel, tout simplement ébouriffants. Épisode 56, donc consacré à The Skycrawlers, sorti en salle au Japon en août 2008, et sorti en France directement en DVD et Blu-ray en janvier 2010, soit 2 ans plus tard.
Et pour ce qui est de l'histoire, alors on est plongé dans un futur alternatif où, après des décennies de guerre, le monde a fini par arriver à une paix durable. Sauf qu'il a désespérément besoin de retrouver un peu d'action. Et du coup, pour apaiser ses citoyens, le gouvernement y met alors en place un cycle de guerre d'un genre nouveau. C'est-à-dire que celles-ci seront désormais organisées par des sociétés militaires privées, dans le seul but de divertir la population à travers des batailles aériennes menées par des pilotes génétiquement modifiés pour ne jamais vieillir et rester éternellement adolescent. On les appelle les Kildrens. On va alors suivre la vie au jour le jour de Yuichi Kanami, la dernière recrue en date d'une base aérienne européenne, de sa brigade composée de 4 pilotes et d'une commandante, à savoir Suito Kusanagi. Et au fil de l'histoire, découvrir la vérité qui se cache derrière leur existence très particulière.
Alors niveau disponibilité, c'est un peu plus facile que les fois précédentes.
Absolument. Alors DVD Blu-ray bien évidemment, et il est aussi en location à moins de 4€ et achat à moins de 8€ sur les stores. Alors là, attention, il y en a pas mal. Google Play, YouTube, Amazon Vidéo, Apple TV, Filmo TV, Universiné. Il me semble aussi avoir vu un Canal Plus quelque part, donc si vous avez un abonnement, il y a moyen de le choper. Sinon, on va faire bien sûr confiance pour le trouver là où vous savez. Et si jamais c'est la seule option envisageable chez vous, on ne cautionne toujours pas, mais au moins c'est le moyen le plus rapide pour découvrir et se faire son propre avis sur ces pépites d'animation moins accessibles.
Alors Julien, est-ce que tu avais déjà vu le film d'aujourd'hui avant ? Parce que moi je ne l'avais pas vu et j'ai même découvert son existence au moment de la création de notre master list, et je savais tout simplement pas qu'Oshii avait fait un autre film d'animation après Innocence.
On est deux, puisque moi, oui, exactement, j'avais même pas entendu parler du film. Et pour moi, Oshii, il était un peu parti sur des OAV, ou en tout cas, il était un peu plus reparti dans l'univers de la série. En fait, non, il a fait un autre long métrage.
C'est ça, on aura peut-être, je sais même pas si on aura l'occasion de le dire, mais c'est qu'en fait, là, il a fait toute une fin des années 2000 et les années 2010, il a fait une espèce de grande parenthèse live action. Il a fait beaucoup de courts métrages et de films en live action. Et là, il paraît qu'il y aurait peut-être un retour qui se profile, mais on n'en sait pas plus. Mais c'est pour ça qu'effectivement, là, c'est son dernier gros projet animé en tant que tel.
Et alors, ce projet, ça donne quoi pour toi, Boris ?
Eh ben, pour être tout à fait honnête, je partais pas plus confiant que ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et au final, ça a été plutôt une agréable surprise. Les 2 heures ne m'ont pas semblé si longues que ça, même avec le rythme très particulier du film et son côté répétitif, parce qu'on sent vite que... Enfin, je trouve que ça a du sens et c'est pas trop superflu. Et en fait, ce qui m'a le plus choqué, ou du moins ce qui m'a le plus surpris et dans le bon sens, c'est de voir qu'en fait, pour un film qui se passe dans les airs, c'est le film le plus terre-à-terre d'Oshii. Et surtout, j'ai trouvé que c'était le plus humain. L'humain, ça a toujours été une composante importante dans ses films et dans les réflexions qu'il a. Mais là, en fait, ça parle de choses beaucoup moins abstraites que d'habitude et auxquelles, je pense, on peut plus facilement s'identifier. J'ai presque envie de dire, je me tente à dire que c'est peut-être le film le plus accessible d'Oshii. La politique, elle est beaucoup moins présente que dans ses Pattes-Labor, voire même quasiment pas. Et aussi fascinant que ça peut être, en fait, on est aussi bien loin des grands essais philosophiques des Ghost in the Shell. Et je pense que le film a fait un bon taf, parce que perso, j'étais investi dans le mystère du film, qui est pas plus complexe que ça. Je trouve que c'est suffisamment évident sans être non plus trop téléphoné. Les séquences de vol, elles m'ont à la fois rappelé quelques heures perdues à jouer à Ace Combat, et elles ont remis aussi quelques pièces dans la machine à hype pour le prochain Top Gun. J'ai pas réussi à pleinement m'habituer à la 3D qui est un peu plus présente que dans Innocence, mais dans Innocence, l'univers cyberpunk, il aidait pas mal. Et là, comme on est dans quelque chose de beaucoup plus réaliste et moins maximaliste, bah, j'ai quand même tiqué à certains moments. Mais grâce à nos précédentes émissions, j'ai vraiment beaucoup moins de mal aujourd'hui avec le mélange 2D-3D. Tu vois, je me suis soigné grâce au podcast. Et du coup, c'est bizarre parce que c'est un film qui déborde du style d'Oshii. Et pourtant, on pourrait croire que par instant, c'est pas lui derrière, en fait. C'est un film qui est bien tenu, qui a trouvé une idée à explorer pendant 2 heures sans trop divaguer à droite à gauche. C'est un peu comme, tu sais, quand un réal, il enchaîne des blockbusters et il revient juste après à un cinéma un peu plus simple, mais super maîtrisé. Donc ouais, c'était vraiment une bonne surprise. Ça paye pas trop de mine, c'est pas trop la joie, mais c'est pas le tombeau des Lucioles non plus. Et ça sera jamais considéré comme le meilleur film d'Oshii ou son plus intéressant parce qu'il est beaucoup moins cryptique et on va dire un peu fascinant que les Ghost in the Shell. Mais c'est un projet, je dirais, à taille humaine, vraiment singulier, et je trouve qu'il mérite vraiment le coup d'œil. Et je suis vraiment content de l'avoir vu, en fait. C'était une bonne surprise. Alors je sais pas ce que c'est de ton côté, mais j'avoue que je pensais pas avoir cette réaction-là en le voyant.
Eh ben... Alors pour moi, genre, effectivement, j'en attendais rien hein, du tout, hein, puisque du coup, j'en avais même pas entendu parler. Et en fait, bon, du coup, connaissant ce qu'Oshii avait fait avant, j'avais un peu l'attente d'un film un peu profond qui pourrait rentrer dans des problématiques qui seraient tellement profondes qu'on n'est pas sûr d'avoir cerné le sujet ou tout ça, mais quand même passionnante et tout ça. Et en fait, j'ai parce que Ghost in the Shell, c'était plutôt ça, et disons que l'action était plutôt mise en retrait et tout ça, surtout le premier, même s'il y en a, hein, bien sûr, mais elle est plutôt mise en retrait dans sa mise en scène. Et là, j'ai plutôt trouvé l'inverse, c'est-à-dire que je suis passé relativement à côté de toute l'histoire et tout ça, puisque, en fait, pour une intrigue très simple comme ça, j'ai eu beaucoup de mal à déjà avoir une map assez claire de ce qui se passait, quoi. Et pourtant, les choses sont très simples. Mm-hmm. Mais disons que le monde est très, très peu expliqué.
On est dans le flou, c'est vrai, ouais.
Ouais, et du coup, ça a fait en sorte que moi, je reste beaucoup... Enfin, pas mal dehors, en fait, du film. Il y a pas mal de points dans l'univers qui est raconté que j'aime beaucoup. L'univers m'attire. Mais disons que le film n'est pas une très bonne porte d'entrée pour l'univers qu'il raconte, en fait. Mmh. Et donc, du coup, c'est un peu un problème quand le film est plus un mur que littéralement une fenêtre vers le monde qu'il raconte. Ouais, j'ai eu tendance à être refroidi pas mal. Et donc, du coup, à la fin, j'étais plutôt, en attente, justement, des scènes qui étaient genre un peu plus... Enfin, dynamique, c'est un euphémisme, mais genre les scènes d'action, les scènes de dogfight en l'air, en avion, mm-hmm. où là vraiment, c'était un truc qui était genre une bouffée de dynamisme. Et en fait, le truc, c'est que j'ai eu l'impression d'être sur un film qui était complètement bicéphale.
Oui.
Autant que ce soit sur l'histoire, autant que sur même la réalisation et l'esthétique. Mais là-dessus, j'y reviendrai dans mon « C'est quoi ton plan ?» puisque bon, c'est là-dessus que j'ai choisi de me poser, un spoiler alerte. Mais en fait, oui, effectivement, c'est un film qui, on retrouve un peu les réflexions sur l'humain, mais à une bien moindre échelle que les films, que ces films précédents. Du coup, on est un peu pas forcément déçu parce que j'en attendais rien, mais on est un peu sur sa fin connaissant Oshii. C'est un univers qui en plus n'est pas passionné ni passionnant à raconter. Et qui se raconte pas de manière très passionnante.
Mais est-ce que c'était le plus important dans ce film-là, l'univers ? Parce que c'est un peu ce qu'on va voir dans le reste de l'épisode. Moi, c'est pour ça que c'est de cette manière-là que je l'ai compris. C'est que peut-être que j'ai eu de la chance ou je sais pas quoi, mais j'ai cru comprendre assez rapidement que l'univers, vraiment, justement, comparé à Ghost in the Shell et même Pat Labore, bah, que ça allait pas être ça le plus important et que du coup on allait vraiment être, comme je le disais à mon avis, plus terre à terre et que c'était ce qui allait se passer avec les personnages. Enfin, comme tu dis, c'est bicéphale.
Ouais, ouais, ouais.
Et bizarrement, moi justement, toutes ces séquences en l'air, tout ça, c'est ça que j'ai trouvé genre vraiment superficiel et pas vraiment intéressant. Enfin, c'est vrai que j'étais beaucoup plus plongé dans ce qui se passait avec les persos. Donc c'est drôle de voir qu'effectivement, on est un peu à l'opposé, quoi.
Oui, c'est exactement ça. Moi, pour moi, ma lecture du truc, c'est que... Parce que moi, j'ai adhéré à littéralement aucun personnage. J'ai trouvé tout ce qui se passait justement sur Terre était très superficiel. Et donc, du coup, je me suis raccroché à... Bah justement à la technique et au truc qui était flamboyant, quoi, du coup, très clairement, puisque ces scènes sont relativement incroyables à voir. Hein. Franchement, rien que pour ça, moi, je vous dirais d'aller les voir. Mais voilà, en fait, je dirais... Ma théorie est la suivante. Si vous adhérez à ce qui se passe quand ils ont les pieds sur Terre, vous allez préférer la phase pieds sur Terre. Et effectivement, je pense que ta vision des choses est très... Enfin, genre... Est très juste, en fait, sur genre... Voilà. Si tous les thèmes abordés quand ils ont les pieds sur Terre vous paraissent intéressants, alors vous allez plus kiffer ce côté-là. Si ça vous paraît pas intéressant, vous allez plutôt vous raccrocher à ce qui se passe dans le ciel. Et donc, du coup, bon, bah, on est sur un truc qui est assez cool, puisque bah, on a deux lectures qui sont assez différentes du film.
Donc, on vous invite quand même, du coup, à le voir, hein, quand même.
Exactement.
On va peut-être pas en remettre une couche, parce que j'ai l'impression que nos avis ont quand même parlé d'eux-mêmes. Vu qu'il est plus facilement disponible que beaucoup de films dont on a parlé, et que vous savez maintenant un minimum dans quoi vous allez potentiellement vous lancer, bah ouais, soyez curieux, allez le voir.
Oui, c'est bien que tu m'aies lancé sur l'invitation à voir le film, puisque voilà, c'est ça que j'allais dire, au vu de nos avis respectifs, on voit qu'on a plutôt affaire à un film qui divise, ou en tout cas, dont on voit pas les mêmes choses, dont on tire pas les mêmes choses, donc je dirais que ça vaut le coup, hein, rien que pour savoir de quel côté vous vous trouvez, hein, entre Team Boris, Team Julien, si vous voulez, et quel est l'aspect qui vous plaira le plus dans le film.
Oh non, on va pas commencer à faire des teams. Tout était si bien, 56 épisodes sans problème, et là ça y est, on commence à faire des teams. Bon, maintenant, avant de nous lancer, éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien savoir de plus, c'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage.
Oui, on va rien dire de plus pour pas vous saboter votre première impression, et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller plus loin sur le film, et pour que vous en appreniez plus dessus avec nous.
Ça s'est bien passé.
Aucun problème.
Bon, il y a eu de la casse ou pas?
Aucune.
Il y a du nouveau du côté de l'usine de Lauterne?
Non, aucun signe d'activité, ils sont bien mouchés.
Je vois. Vous pouvez disposer.
Merci, commandant.
Excusez-moi, j'aimerais vous poser une question. C'est à propos du pilote qui volait sur mon appareil avant moi.
Jinro Kurita? Il a fait partie de mes effectifs pendant 7 mois. Il a 63 sorties au compteur. Et c'était plutôt un bon pilote.
Où est-il parti?
Écoute, je ne peux pas répondre à ta question.
Pourquoi a-t-il été transféré ailleurs?
Je ne peux rien te dire.
Il s'est fait tuer?
De toute façon, même si c'était le cas, ça ne changerait rien pour toi. Soit on est là, soit on n'est pas là. Toi, tu es là, lui n'y est plus, voilà tout.
Mais normalement, quand on reprend un appareil, on doit se mettre en contact avec l'ancien pilote. Enfin, à condition que la personne soit toujours en vie, bien sûr.
Cet appareil est encore neuf. J'ai jugé que le passage de relais n'était pas nécessaire. Tu n'y vois pas d'objection?
Non, c'est un très bon avion.
Autre chose?
Oui, est-ce que vous êtes un Kildren?
D'autres questions?
Alors, pour remettre le film dans son contexte, il faut qu'on parte retrouver Mamoru Oshii une dernière fois avant un bon petit bout de temps. On l'a dit en intro, le film d'aujourd'hui, c'est son dernier long métrage d'animation en date, et depuis en fait mars 2018, il serait question d'un retour à ce format-là avec un projet dans les tuyaux, mais on n'en sait toujours pas plus. On revient donc en 2004, après la sortie d'Innocence, le second film Ghost in the Shell. Et même si on n'a pas parlé de lui, bah Oshii, ça reste quelqu'un de très productif. Si on met de côté une poignée de collaborations qui n'ont pas vu le jour, où il devait officier en tant que scénariste ou en tant que réalisateur, il a eu les mains pleines avant de s'attaquer au film dont on va vous parler aujourd'hui. Il a co-réalisé une pièce de théâtre immersive mélangeant prise de vue réelle et animation 3D, créée et diffusée sur grand écran spécialement à l'occasion de l'exposition universelle de 2005 à Nagoya, la quatrième ville la plus peuplée du Japon. Il a réalisé une poignée de courts-métrages et de longs-métrages en prise de vue réelle dans l'univers de sa saga Kerberos. On vous renvoie à notre épisode 29 sur Jinro, la brigade des loups, si vous voulez en savoir plus là-dessus. Il a réalisé un court-métrage animé dans le cadre de l'anthologie Anikuri 15, qu'on a brièvement cité dans notre épisode 52 sur Genius Party. Et puis en parallèle de son travail sur le film qui nous intéresse aujourd'hui, il a également pris le temps de travailler sur la version 2.0 du premier Ghost in the Shell, où l'animation de certaines scènes a été augmentée avec de la 3D, en plus d'une nouvelle intro et d'un nouveau montage avec certains petits passages du film original qui sont passés à la trappe. Si vous vous souvenez de notre épisode 24 sur Ghost in the Shell, on vous avait déjà dit à l'époque que cette version-là, elle n'était pas forcément celle à voir. C'est une curiosité, mais elle ne vaut en rien le film original. Honnêtement, vous pouvez faire l'impasse dessus.
Et c'est à l'été 2007 que le studio Production IG, à l'origine des films d'animation d'Oshi depuis le début des années 90, annonce un nouveau projet de long-métrage d'animation avec Oshi à la barre, visant une sortie pour l'année suivante. Il s'agit de l'adaptation du premier volume de The Skycrawlers, une série de 6 romans illustrés créés en 2001 par Hiroshi Mori, chroniquant, comme je l'ai dit dans le résumé, le quotidien de jeunes pilotes d'avions de chasse dans un monde alternatif, mais proche d'une autre, où la guerre n'est plus qu'un divertissement pour la population et où ces pilotes, bien conscients de leur existence très particulière, vivent éternellement et pleinement leur adolescence jusqu'au potentiel jour fatidique où ils seront tués en plein vol pendant un combat aérien. C'est une série de romans très particulière pour son auteur parce qu'elle détonne pas mal avec les romans policiers pour lesquels il est surtout connu au Japon. Il considère The Skycrawlers comme son œuvre la plus complexe à adapter à l'écran et il a été à la fois très surpris mais aussi très soulagé que ce soit Mamoru Oshii qui devienne le réalisateur à s'essayer à cette adaptation et il lui a immédiatement donné son feu vert. Quand Oshii a découvert ses romans, il a été profondément marqué par les thèmes sous-jacents que soulevait leur histoire et pensait sincèrement que c'était un récit idéal pour la jeunesse actuelle. Et c'est en partie pour ça qu'il a changé encore ses habitudes et il n'a ni fait appel à Kazunori Ito, son scénariste fétiche des premiers jours, ni écrit le scénario lui-même, mais cette fois il a confié cette tâche à une jeune scénariste, Chihiro Ito. Aucun lien de parenté avec celui qu'on a cité à l'instant. Oshii l'avait remarqué grâce aux deux premiers films dont elle a écrit le scénario en 2004 et 2005, qui ont remporté un bon succès auprès du public en traitant justement des sentiments et de la sensibilité de la jeunesse japonaise actuelle. Il va seulement lui donner les grandes lignes de l'histoire qu'il a en tête et qui, comme d'habitude, s'éloigne pas mal du récit originel pour créer, selon lui, un film plus divertissant et plus adapté pour les écrans.
Et après un tout petit peu plus d'un an de travail, le film The Skycrawlers sort comme annoncé dans les salles obscures japonaises l'année suivante de son annonce, le 2 août 2008. Comme d'habitude avec les films d'Oshi, on est loin d'un succès au box-office, mais son nom lié à un film d'animation a suffi pour attirer un certain public, mais c'est surtout la critique qui semble avoir bien résonné avec le film. Moins d'un mois après sa sortie, le film est sélectionné en compétition officielle de la 65e Mostra de Venise. Avec Cannes et Berlin, ce sont les trois festivals internationaux de films les plus prestigieux, et Oshi rejoint à ce moment-là Hayao Miyazaki dans le club très fermé des réalisateurs de films d'animation japonais à avoir été sélectionné en compétition officielle dans deux de ces trois festivals. Pour Oshi, il s'agit de Cannes avec Ghost in the Shell Innocence, le seul film d'animation japonais de l'histoire à avoir concouru pour la Palme d'Or, on ne le rappellera jamais assez, et donc Venise avec The Skycrawlers. Et pour Miyazaki, il s'agit de Berlin, où Le Voyage de Chihiro a remporté ex aequo l'Ours d'Or du meilleur film, et de Venise, avec Le Château ambulant et Pogno sur la falaise. The Skycrawlers, il arrive même à repartir avec le Grand Prix Digital du futur film festival, ayant lieu en même temps que et reconnu par la Mostra de Venise, c'est l'événement italien le plus important dédié aux nouvelles technologies, aux effets spéciaux et à l'animation 3D dans le domaine de la télévision et du cinéma. Et grâce à ça, The Skycrawlers va contrebalancer le fait de ne pas avoir eu de sortie en salle en dehors du Japon, de Singapour et de Taïwan, et il va faire le tour d'autres festivals de films internationaux en Europe et outre-Atlantique, où il aura d'ailleurs sa première lors du prestigieux Festival international du film de Toronto. Et pour couronner le tout et finir en beauté, une fois cette tournée promotionnelle occidentale terminée, c'est The Skycrawlers qui va remporter le prestigieux prix Mainichi du meilleur film d'animation. Ici, il dame donc le pion à Pogno sur la falaise, qui avait pourtant remporté le prix du meilleur film d'animation de l'Académie japonaise devant, entre autres, The Skycrawlers.
Et donc maintenant, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film. Et quand il a été annoncé, The Skycrawlers était supposé être le retour en grande pompe de Mamoru Oshii aux gros films de science-fiction qui l'ont fait exploser à l'international. Et d'une manière, c'est le cas, mais bien plus que la science-fiction, c'est l'approche si particulière et reconnaissable du cinéma d'Oshii qui vient se réaffirmer avec ce film. On pourrait croire à un film d'action en voyant l'affiche et les premières minutes du film, mais The Skycrawlers est avant toute chose un film à mystère où l'intrigue se dévoile lentement, petit à petit. C'est un faux film de guerre qui cache à peine en réalité un vrai drame psychologique. La lutte entre Rostock et Lauterne, les noms des compagnies militaires rivales, n'est qu'un prétexte pour mettre les personnages en situation. Les combats aériens ne mènent absolument pas l'intrigue, hein, ce sont des moments de défoulement dans ce qui est, du début à la fin, un huis clos presque étouffant.
C'est un film qui se distingue vraiment par son atmosphère surréaliste, inquiétante et surtout, il faut le dire, un peu dépressive. Il n'y a pas beaucoup de personnages, ils sont apparemment séparés du reste du monde et ils ont l'air de sortir du même moule. C'est des ados au visage blême, aux cheveux raides et au regard là, quasi androgyne. Il n'y a à la limite que le commandant Kusanagi justement qui sort du lot et on va comprendre rapidement qu'elle va être un personnage clé d'histoire aux côtés du personnage principal de Kanami et sa découverte progressive de la vérité sur leur existence. En ça, The Skycrawlers, il utilise une sorte de suspense psychologique où ce qui compte, en fait, ce sont les mots, les gestes, les regards et les petits détails qui permettent de faire la différence entre différentes perceptions de ce qui est réel. Le film, il instaure en fait petit à petit une sorte de tension avec des montées d'adrénaline dans des scènes apparemment banales, que ce soit une virée au bowling, un tête-à-tête dans un cottage, une étreinte dans une voiture, jusqu'au climax final et, petite nouveauté dans le médium, une ultime scène révélatrice post-générique de fin. The Skycrawlers, vous commencez à le deviner, c'est un film complexe sur l'intériorité et le non-dit qu'il faut s'efforcer à ressentir plutôt que d'essayer à comprendre et analyser, ce qui ne nous facilite pas beaucoup la tâche pour aujourd'hui. Mais comme avec les autres films d'Oshii qu'on a traités dans notre podcast, on va quand même essayer de dégager les axes de réflexion majeurs qui ressortent du film.
Dans les grandes lignes, on pourrait d'abord le résumer en tant que film complexe dénonçant l'hypocrisie de ce que l'on peut mettre en place pour préserver la paix et l'utilisation d'êtres humains pour faire fonctionner un système. Il s'agit ici d'examiner la condition humaine, explorer le monde de l'adolescence et critiquer l'absurdité de la guerre. Oshii nous propose un questionnement sur l'habituel spectacle qu'offre la majeure partie des animés de mecha, des guerres menées par des ados qui meurent et tuent d'autres ados pour le plaisir et l'identification du spectateur. Et The Skycrawler pousse juste cette logique du spectacle à son paroxysme en imaginant une société qui vit la guerre comme un show, avec ses vedettes, hein, comme un sport avec ses ligues et ses champions, sauf que les héros sont des marionnettes consentantes, sans être sûrs de savoir si elles ont complètement conscience de ce qu'elles font. Ici, les fameux Kildrens, au centre de cette guerre, commencent doucement à avoir du mal à accepter comment ils doivent répéter un cycle de guerre sans fin et le fait qu'elles ne peuvent ni vieillir ni mourir. Ces sortes d'immortels sont tristes, ils n'ont plus de but et ne peuvent plus compter que sur les combats aériens pour leur fournir une quelconque stimulation. Au mieux, ils errent dans des décors froids et au pire, ils se mettent à souffrir de traumatismes anciens qu'ils ne comprennent pas entièrement.
Pour Oshii, les Kildren, c'est la représentation de la jeunesse actuelle des pays développés qui ne connaît pas la guerre, qui ne connaît pas la faim, la misère, et qui finit par s'ennuyer et tomber dans une sorte d'apathie. Il dit vouloir redonner espoir à la jeune génération avec ce film, avec un protagoniste en forme de porte-parole, puisqu'il répond à la monotonie que promet la vie éternelle avec le fait que chaque jour qui passe est toujours porteur pour lui d'une nouvelle richesse qu'il faut apprendre à voir. Mais ce message d'espoir, c'est loin d'être ce qui frappe dans The Skycrawlers. On retient surtout ce climat mélancolique omniprésent. C'est une des forces du film, mais c'est aussi ce qui peut rendre les deux heures un peu longues. Sa froideur générale engendre en fait une approche plus théorique des problématiques des personnages, leur besoin de se donner un but à travers le spectaculaire, puisqu'ils sont en fait incapables de vivre dans le calme. Ce qui ressort de The Skycrawlers, c'est une étrange réflexion sur la non-nécessité de faire partie du monde.
Et en parlant de monde, le récit du film met de côté dans son univers alternatif toute contextualisation géopolitique. L'ennemi se réduit aux avions de l'autre camp et le plus coriace d'entre eux se nomme le professeur, simplement identifiable par la panthère noire sur sa carlingue d'avion. Et d'ailleurs, c'est lui qui va finir par devenir la cible et la raison d'être du personnage principal. On y reviendra un peu plus tard là-dessus. Mais quand on découvre ce nouvel environnement à travers les yeux du personnage principal qui est lui aussi supposé être le petit nouveau de la base, eh ben, y a déjà quelque chose qui cloche. Que ce soit le chien de la base qui accourt vers lui quand il descend de son avion, comme s'il le connaissait et que c'était une habitude, son apparente décontraction dans cette base qu'il est supposé découvrir, des impressions de déjà-vu avec la mécanicienne ou encore sa première entrevue avec la commandante Kusanagi et son « je vous attendais » qui semble bien plus lourd de sens qu'en apparence, et bien tout ça, ça semble bien étrange. Le récit du film va simplement alterner entre un quotidien lambda et des combats aériens, tout en distillant ici et là des indices quant à la raison d'être des personnages. La vie de ces Kildrons ne tient qu'à un film, mais elle ne semble pourtant pas les affecter, et la répétitivité de leur existence se répercute directement sur leur attitude. Notre protagoniste Kanami se pose plusieurs fois les questions qui nous agitent également en tant que spectateur, mais qu'il ait ou pas sa réponse, il n'éprouvera jamais aucun doute ou aucune défiance, et il reviendra à son comportement d'origine.
On pourrait faire facilement le reproche à Oshi d'avoir créé une œuvre désincarnée et répétitive, mais cette répétitivité fait justement sens dans The Skycrawlers, où l'être sans identité, sans définition de ce qu'il est et sans perspective d'où il va, vit dans l'éternel recommencement d'une existence sans but. Et ça, c'était précisément le sujet de son Lamu, un rêve sans fin de 1984, qu'on a traité dans notre vieil épisode 5, qui conceptualisait déjà cette boucle, mais de façon ludique, et aussi de son Ghost in the Shell de 1995, notre épisode 24, qui lui réfléchissait à cette boucle plutôt au niveau de la conscience. Il s'agissait à chaque fois de personnages cherchant à échapper à une prison à la fois mentale, sociétale et métaphysique, et The Skycrawlers ne fait que s'inscrire dans cette continuité. Sauf qu'il s'agit en plus, potentiellement, de l'œuvre la plus désabusée de Mamoru Oshii. D'habitude, ces cheminements existentiels vont amener les personnages à se transformer et à dépasser leur précédente existence. Mais là, le climax du film et l'affrontement tant attendu entre Kanami et le professeur n'est absolument pas rempli de tension, mais plutôt d'un profond renoncement. Certains personnages du film nous amènent à croire que finalement, la seule alternative à leur existence et à l'impasse dans laquelle ils se trouvent semble être rien de plus que la mort. Mais dans le film, même ça, ça ne va permettre au final que de recommencer le cycle auquel ils essayent d'échapper d'une manière légèrement différente. Et là, pour la suite de l'épisode, on est obligé de spoiler la révélation de fin de film, qui est définitivement confirmée par la scène post-générique, qui représente une forme de conclusion à la réflexion d'Oshi dont on vient de parler. Kanami est finalement tombé au combat, mais il réapparaît sous d'autres traits dans cette scène post-générique.
Les Kildrons sont donc non seulement des adultes au corps d'enfant dont la seule fonction est de faire la guerre, hein, c'est le croisement entre les mots kill et children, mais ils sont en plus de ça en réalité clonés par les entreprises afin de combattre sans mettre en péril les vrais humains, tout en conservant certains souvenirs dans un nouveau corps à chaque mort dans les airs pour développer le capital stratégique qu'ils expérimentent et éprouvent à chaque envolée. Les corporations qui les créent leur refusent une psyché qui se souviendrait de ses vies antérieures, et elles ne renouvellent et n'entretiennent leur peur de la mort que dans le but d'en faire de meilleurs soldats pour faire de cette guerre factice un meilleur divertissement. C'est ce projet, terrifiant dans son ambition, qui plane au-dessus du film, et qui en fait une œuvre singulière dans la carrière d'Oshi.
À travers les thèmes clés de The Skycrawlers, on arrive aussi à entreapercevoir potentiellement trois discours méta de la part d'Oshi. Le premier, il touche justement à la notion de divertissement de manière générale. En fait, en prenant la critique plus qu'évidente et un peu superficielle que le film serait bien plus engageant et attirant pour le grand public en ne conservant que ses scènes de combat aérien sur lesquelles il a potentiellement été le plus vendu pour attirer ce public et avec lequel il démarre, eh ben ça montre une préférence au divertissement du public et non à l'apprentissage et à la réflexion. Mais comme dans le film, la guerre est elle-même un divertissement comme un autre, eh ben les combats qui s'y déroulent, ils n'ont alors aucun sens à proprement parler. On a même vu qu'en soi, l'affrontement final du film est lui aussi futile. Dans le film, en fait, les combats ils fonctionnent en réalité de la même manière pour les personnages que pour les spectateurs. C'est une simple distraction. Et face à cette superficialité apparente, eh ben le protagoniste du film et le spectateur ils font encore une fois la même chose. Ils se débattent avec la recherche d'un but et d'un sens, celui dans le monde dans lequel ils évoluent et celui du film qu'ils regardent.
Le second discours méta touche, lui, à la structure du film et le rapprochement plus qu'évident avec celui d'un jeu vidéo. Et on n'étonnera personne en vous disant qu'un jeu vidéo dérivé a même été supervisé par Oshii après la sortie du film. On commence le film comme on commence un nouveau jeu, on nous présente l'univers et potentiellement l'adversaire final qui nous attend, on choisit notre avatar, ici le protagoniste du film. On a le droit à plusieurs missions qui nous permettent d'avancer dans l'histoire. On découvre des vérités qui agissent un peu comme des niveaux de compétences. On fait finalement face au boss de fin on perd, on relance une nouvelle partie avec le même personnage et on répète ça en boucle jusqu'à pouvoir terminer le jeu. En fait, vers la fin du film, notre protagoniste Kanami fait un commentaire sur sa situation que l'on peut directement interpréter par le potentiel désenchantement lié au jeu vidéo. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup de jouer au même jeu de manière différente ? Si on a déjà joué, pourquoi recommencer ? Surtout dans le cas du film où ça semble impossible de gagner en réalité. On découvre que la précédente version de Kanami a justement demandé à être tué pour essayer de ne pas jouer au jeu dont il était au final que le pion, mais en sachant maintenant le secret derrière les killdrones, on sait aussi que la mort n'a plus aucun sens et qu'elle n'est finalement rien de plus qu'un écho à la mécanique de respawn des jeux vidéo. Ici, le jeu doit être joué continuellement et infiniment, sans aucune raison ou sans aucun but précis, puisqu'il s'agit simplement d'un divertissement. Et pour le joueur, ici le protagoniste, c'est potentiellement de la folie pure et simple.
Et le troisième et dernier discours méta, lui, il est directement lié à l'industrie de l'animation de manière générale. On parlait un peu plus tôt de la volonté d'Oshii avec ce film de combattre cette culture grandissante d'une partie de la jeunesse actuelle qui semble refuser de grandir et qui se réfugie dans le confort sans aucune ambition et à la recherche constante de satisfaction instantanée. Eh ben, le quotidien des Kildren dans le film, c'est un peu une métaphore de ça de manière générale. C'est pratique de se dire que le film parle de ces personnes-là parce que c'est une réalité pratiquement malaisante qui touche particulièrement le Japon, avec le phénomène des hikikomori par exemple, et d'une partie de cette jeunesse qui se refuse à devenir un membre contribuant à la société, mais c'est partiellement vrai, le film et ses thèmes ils peuvent être appliqués à toute personne vivant dans une société moderne, déconnectée, vivant dans une vie un peu de désespoir tranquille, mais pour une personne ayant une connaissance intime du monde de l'animation japonaise et de sa culture comme Mamoru Oshii, eh ben il est évident que ce film il parle des otaku. En soi, on peut voir le film comme un pamphlet à la fois contre un environnement créatif mort, l'industrie de l'animation japonaise, et aux gens qui se nourrissent sans réfléchir des mêmes choses reconditionnées sous une nouvelle apparence, et ça c'est les fans.
Parce que oui, plus le film avance, plus il est assez clair que la véritable cible du mépris d'Oshii est l'animé en lui-même. C'est une curiosité pour les étrangers, on note au passage une inversion de cliché bien sentie vis-à-vis de ça quand ce sont des touristes anglais qui n'arrêtent pas de prendre des photos devant des pilotes asiatiques un peu surpris, mais c'est globalement pas vraiment plus que la même vieille chose répétée à l'infini avec rarement un écho d'originalité. En plus de ça, les fans d'anime, installés confortablement avec complaisance face à cette répétition, ils ont l'habitude d'avoir ce genre d'ado pilote comme Avatar, partant explorer des mondes qui font écho aux nôtres, mais qui sont toujours des mondes fantastiques. La plupart d'entre eux sont interchangeables et les personnages eux-mêmes sont quelconques et sans personnalité, comme Kanami dans The Skycrawlers. Il ne fait que suivre les événements prévus par le scénario jusqu'à ce qu'il se rende finalement compte que la porte de sortie de cette existence est d'essayer d'y trouver un but.
Il y a une scène vers la fin du film où une autre pilote de la brigade de Kanami commence enfin à expliquer, enfin à essayer d'expliquer dans un dialogue typique d'Oshii en fait, la raison scientifique et théorique derrière l'existence des Kildren et pourquoi ils font ce qu'ils font. Et on réalise très vite que tout ça, bah, c'est potentiellement un charabia absolu. C'est des explications qui ne font rien d'autre qu'essayer de rationaliser l'existence de quelque chose qui ne devrait pas exister au départ. Et c'est à ce moment-là que The Skycrawlers prend vraiment position et déclare que ce cercle vicieux est inacceptable et que ceux qui vivent des vies sans aucune signification doivent simplement faire quelque chose de leur vie. Oshii, il a peu de sympathie pour ceux qui sont pris dans une boucle défaitiste, destructrice et apathique, et au contraire, il sait que quelque chose peut et doit être fait.
Mais au-delà de ces réflexions très particulières, on aimerait terminer cette partie thématique assez costaude avec un dernier discours qui se dégage du film et qui pour le coup est plutôt optimiste dans le sens où il s'agit d'une exploration assez intéressante des notions de maturité et de rapport à la mort. The Skycrawlers, c'est donc un film qui parle d'une jeunesse désespérée, mais finalement, il va aussi parler de la recherche d'une raison de ne pas mourir, ou du moins de ne pas essayer. Et c'est pas un film avec une idée claire de ce qu'une personne devrait faire de sa vie, mais il propose juste quelques chemins différents et certaines façons pour les gens de gérer le fait qu'ils vont mourir. Et encore une fois, c'est le concept des Kildren qui représente ça. Ils sont littéralement modifiés génétiquement pour ne pas grandir et rester à jamais adolescents, mais ils représentent figurativement la jeunesse qui ne veut pas grandir et devenir plus mature. Ils ont beau se comporter comme des adultes en buvant de l'alcool, en fumant, en couchant à droite à gauche, en tuant et même en ayant des enfants, mais ils font tout ça en expliquant qu'ils restent toujours des gamins.
Ça soulève la question de quelle est la différence entre un adulte et un adolescent éternel ? On sait que c'est pas leur physique puisqu'ils sont conçus pour être des enfants. On apprend par le biais de notre protagoniste que rien ne les empêche de se comporter de manière plus adulte, mais ils choisissent de ne pas le faire. La notion de maturité, c'est donc une option et un choix qui ne tient pas compte de la raison pour laquelle ils sont bloqués dans cette adolescence éternelle. Les Kildren y justifient justement leur comportement en expliquant que comme ils peuvent trouver la mort à chaque sortie en vol, alors pourquoi s'embêter à mûrir ? C'est une excuse biaisée mais raisonnable, il n'y a absolument aucune raison pour eux de vivre dans la peur de la mort et de prétendre qu'un avenir existe toujours pour eux, puisqu'ils savent très bien qu'ils vont mourir d'ici peu de temps et qu'ils n'existent que pour ça. Et même le fait de réussir hypothétiquement à tuer le professeur, l'espèce d'adversaire ultime et celui qui représente justement une sorte de sensei, de parent et la figure de l'adulte à surpasser, eh ben cet acte ce serait qu'un acte symbolique puisqu'il ne ferait que perpétuer le système déjà en place. Réussir cet exploit, ça ne rendrait personne plus mature puisque personne ne changera de toute façon après ça.
Donc, quelle est la différence entre un adulte et un adolescent éternel ? Eh bien, on ne sait pas puisque le film se termine là où il a commencé. Un enfant, c'est un adulte qui a besoin de plus de temps, même face à l'immortalité.
Donc au lieu de mettre en place un récit très classique sur des ados qui vont finalement réussir à devenir des adultes, The Skycrawlers y va plutôt prendre le parti relativement sombre de montrer une jeunesse qui se sait plus qu'éphémère et sans réel but dans la vie, qui va d'abord tout simplement s'amuser et se divertir face à cette réalisation, mais le film va aussi aborder ce qui se passe quand ce style de vie devient beaucoup trop pesant et que certains vont juste essayer d'y finir au plus vite. Et c'est là qu'on revient à l'autre personnage capital du film, la commandante Kusanagi, et c'est à travers elle qu'on découvre ce point de vue et comment finalement la mort n'est pas un choix et ce qu'il faut faire pour accepter cette fatalité. C'est elle la première qui en a eu marre de cette vie, alors qu'elle sait pertinemment que la mort l'attend et que si elle le souhaite, elle a sous la main un ennemi invincible sur lequel elle peut se jeter dans l'espoir d'être tuée et d'en finir. Mais elle est obligée de vivre parce que c'est contre son instinct de base de partir en mission suicide, et c'est pour ça qu'elle court vers toutes les occasions de laisser quelqu'un d'autre le faire pour elle. Ce qu'elle a réalisé entre-temps, c'est qu'il existe une autre façon de vivre en pensant à la mort, c'est de le supporter, d'affronter cet ennemi insurmontable sans peur, dans l'espoir de le briser et de détruire ce cercle, même en sachant pertinemment que le monde ne changera jamais. Kanami, il a l'air d'avoir compris ça aussi, puisqu'il part affronter le professeur à la fin du film dans l'espoir de protéger celle qu'il aime et d'offrir un meilleur avenir à ceux qui vont continuer de vivre une fois que lui sera abattu en plein ciel. Même si le monde se terminait pour lui le lendemain, il a finalement trouvé quelque chose auquel se raccrocher jusqu'au moment fatidique.
Et en soi, c'est peut-être ça le message ultime de The Skycrawlers. Kusanagi a décidé de ne pas mourir, d'aimer sa fille, de prendre soin d'elle et d'embrasser l'avenir, même s'il ne sera potentiellement que de courte durée. Elle n'a pas pris la décision de vivre, personne ne peut prendre cette décision, car ce n'est pas non plus une option. La mort arrivera à un moment donné, et il n'est question au final que de ce qu'on essaye de se résoudre à faire jusque-là.
Chef Sasakura.
Quoi ?
Ça fait longtemps que vous bossez avec Kusanagi ?
J'en sais rien. Peut-être 8 ans, quelque chose comme ça.
Alors, vous l'avez connue quand c'était elle l'as de cette escadrille ?
On peut dire ça.
Comment vous vous expliquez le comportement qu'elle a ?
Je ne comprends pas où tu veux en venir.
Elle est du genre suicidaire, non ?
Kusanagi est une grande professionnelle et elle fait son boulot d'une manière irréprochable.
Vous ne trouvez pas bizarre qu'elle ait un enfant ?
Où est le problème ?
Un enfant met au monde un autre enfant.
Et alors ?
Vous ne comprenez pas ?
Non, je suis désolée.
Tout le monde ferme les yeux là-dessus, vous comme les autres. Vous faites comme s'il n'y avait pas de problème, et la société idem. Pourtant, je suis sûre qu'ils sont au courant, eux aussi.
Qu'est-ce que tu en sais, hein ? Kusanagi est un pilote extraordinaire, c'est pour ça qu'elle est toujours en vie. Les autres se font descendre, mais elle, elle est toujours là. Elle a eu le temps de voir des tas de choses, et d'y réfléchir. Depuis, elle a appris à agir sur son propre destin et sur celui des autres.
Comme par exemple tuer la personne que vous aimez, c'est ça que vous voulez dire ?
Tu n'as pas compris.
Y a rien à comprendre !
Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Comme tous les films d'Oshi, l'emballage visuel est toujours très bien soigné, mais dans ce film, la superficialité au cœur de ses thématiques est elle-même bien ancrée dans cet emballage. Le climat désespérant du film y se ressent d'autant plus par son rythme lent, ses couleurs ternes, ses espaces vides, ses visages figés et ses corps lourds. On retrouve toutes les caractéristiques des films d'Oshi, avec non seulement l'éternel chien basset, mais surtout les longues scènes d'exposition contemplatives et leurs dialogues, mais étrangement, elles ne sont pas si omniprésentes que ça dans The Skycrawlers en comparaison du reste de sa filmographie. Du moins, elles ont l'air d'être un peu mieux intégrées au récit puisque le monde du film impacte plus les réflexions qu'il soulève que par le passé, comme dans le premier Ghost in the Shell par exemple où le film semblait carrément faire une pause pour laisser libre cours à Oshii de partir dans les réflexions philosophiques qu'il souhaitait intégrer à l'univers cyberpunk. D'un point de vue purement visuel par contre, on est bien loin du tape-à-l'œil coloré et futuriste de la série Ghost in the Shell, on est clairement plus proche des films Pat Labore, mais sans cette patine si particulière de l'animation du début des années 90 et cette recherche des décors urbains fouillés et photoréalistes. Dans ce sens, The Skycrawler, c'est un peu l'œuvre la plus minimaliste d'Oshii, mais il garde quand même cette fascination pour la mécanique, les protocoles et les procédures qui sont ici liées au monde de l'aviation militaire.
Lors de la Mostra de Venise, il avait expliqué à la presse que différents styles avaient été envisagés pour ce film. Le live-action était sur la liste, mais par manque de budget pour atteindre le réalisme qu'il voulait, cette approche a été abandonnée. Il avait également pensé à utiliser l'imagerie 3D photoréaliste pour tout le film, mais il ne se sentait pas capable de pouvoir créer les émotions complexes nécessaires à certaines des scènes importantes à la fin du film avec ce procédé, là où le live-action, ou pour le coup ici l'animation 2D, est bien plus apte à créer ce genre d'émotions et à les traduire par l'image. Le résultat final, donc, c'est un mélange de 3D pour tous les environnements et les séquences de vol, et de 2D pour tout ce qui touche aux personnages et ce qui se passe sur la terre ferme. Ça donne au film un mélange de styles assez étrange et dissonant, comme par exemple quand Kanami sort de son avion, tout ce qui se trouve derrière lui et devant lui est beaucoup plus détaillé que lui-même alors que c'est lui qui est au cœur de l'image. Ça donne un rendu presque cinématique de jeu vidéo, mais pas dans le bon sens. C'est un look étrange et même si Oshii l'utilise constamment tout au long du film, on ne s'y habitue jamais trop, même si le mélange est réussi d'un point de vue technique. Mais au bout du compte, c'est clairement un choix bien précis de la part d'Oshii. Cette cohabitation de technique crée quelque chose d'abstrait et d'artificiel qui correspond tout à fait à la perception limitée des héros dans l'histoire. La 3D est très impressionnante et fonctionne très bien pendant toutes les séquences aériennes, particulièrement celle du bombardement. Mais comme elles prennent un ton volontairement banal et dénué de sens dans le film, eh ben son utilisation dans Ghost in the Shell Innocence paraît nettement supérieure bien qu'elle soit sensiblement du même niveau. Logique puisque c'est le même studio, Polygon Pictures, qui s'en est chargé à chaque fois.
Cela n'empêche en rien The Skycrawlers d'avoir une direction artistique cohérente et de qualité qui nous offre quelques aperçus de ce monde alternatif au nôtre, post-Seconde Guerre mondiale, où les aérodromes anglais côtoient les diners américains qui servent de pub. Les décors en dehors de la base y relèvent plus d'une sorte d'Europe recomposée, avec des paysages froids évoquant tantôt l'Irlande avec ses landes, les falaises et les structures rocheuses avec des runes celtiques, tantôt la Pologne ou l'Europe de l'Est de manière générale, à travers la seule ville habitée que l'on voit dans le film, rappelant un peu l'esthétique proche de ce qu'avait fait Katsuhiro Otomo dans certains de ses projets. L'Irlande et la Pologne, en fait, c'est tout simplement les deux régions où l'équipe du film est allée en repérage pour leurs recherches. Oshii y continue aussi de puiser dans sa fascination pour l'imagerie militaire allemande qui avait déjà une place toute particulière dans sa saga des Kerberos. Non seulement le nom des deux entreprises militaires concurrentes dans le film, Rostock et Lautern, ce sont deux noms de villes allemandes, mais on retrouve dans tous les détails des tenues de vol et des avions l'inspiration de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, mais spécifiquement celle d'entre-deux-guerres, avec quand même une mini-pointe de fantaisie et de futurisme ici et là. Même le numéro de la base 262, c'est une référence au célèbre ME-262, le tout premier chasseur à réaction.
Le rendu 3D des avions est de loin la plus grande réussite du film de ce côté-là, même si leur rendu très brillant reste très particulier et très superficiel. Et le réalisme et la fluidité qui leur est apporté dans les séquences de vol participent grandement à l'aspect impressionnant de ces séquences. Et de l'autre côté du spectre, on a l'animation impeccable mais très statique des personnages englués dans leurs réflexions. On est surpris de voir que la séquence la plus fluide à ce niveau-là est une simple partie bowling où l'attention donnée au mouvement est clairement plusieurs crans au-dessus du reste du film. Mais pour sa défense, il n'est pas vraiment démonstratif de ce côté-là, donc forcément on remarque immédiatement le changement. Le chara-design est propre, très simple et comme souvent chez Oshii, relativement inexpressif. Mais encore une fois, cela va dans le sens du film, puisqu'on parle d'êtres artificiels qui évoluent dans un monde qui l'est en partie tout autant de leur point de vue.
Il faut aussi qu'on s'attarde très rapidement sur le design et le mixage sonore du film, qui est d'une qualité franchement remarquable, et c'est en grande partie dû au fait qu'il a été réalisé par nul autre que les studios Skywalker Sound, à qui on doit entre autres le travail sonore des films de George Lucas, donc toute la saga Star Wars, mais aussi les films de Steven Spielberg ou encore ceux de James Cameron. Il y a un passage en particulier dans le film, aux alentours de la 40e minute, où il y a une flotte d'avions qui traverse lentement non seulement l'image mais aussi l'espace audio. Et à ce moment-là, le travail de design et de spatialisation sonore, il est vraiment impressionnant et très immersif.
Et pour finir, que serait un film de Mamoru Oshii sans la musique de Kenji Kawai, qui revient bien entendu nous montrer son talent musical avec une très belle partition tantôt orchestrale, tantôt ambiante et synthétique. Toujours avec ses chorales mélancoliques, reconnaissables entre toutes. On notera juste la présence d'une harpe de manière récurrente et le retour de l'immense boîte à musique sur disque qui avait été utilisée sur Ghost in the Shell Innocence. Mais sa musique reste plus discrète qu'elle ne l'est déjà d'habitude. Elle est vraiment utilisée de manière clairsemée pour un maximum d'impact et d'efficacité lorsqu'on l'entend, en prenant la part sur l'image. En toute logique, c'est clairement le thème principal qui ressort et qui restera le plus mémorable, puisque c'est le seul clairement reconnaissable et décliné tout au long du film.
Et maintenant qu'on vous a tout dit, ou presque, c'est parti pour le « C'est quoi ton plan ?». Comme d'habitude, on a tous les deux choisi un plan qui nous a marqué pour une raison ou une autre, et on en discute. Et si vous voulez les retrouver, ces plans, et ben ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Et pour une fois, Julien, ça faisait longtemps, on va commencer par toi, même si je sais que nos plans sont à très peu d'écart, mais c'est toi qui passes en premier, alors dis-moi, c'est quoi ton plan ?
Alors, mon plan se situe à la fin du film, hein, grosso modo. Hein, genre, on est vraiment à 1h52 sur 2 heures de film, j'allais dire 3 heures. Sur 2 heures de film. Donc voilà, on est vraiment sur cette séquence dont on a parlé un peu plus tôt, où Kanami décide d'aller affronter le professeur et d'aller quasiment se donner la mort hein, d'aller se donner la mort sur cet affrontement, mais on ne le sait pas encore bien, même si c'est très probable. Et donc, du coup, j'ai choisi un plan où, dogfight, j'en parlais dans mon avis, que j'ai préféré justement ces séquences-là. Et là, en fait, on a affaire à un plan où la caméra est littéralement dans le cockpit et qui est orientée vers le haut du cockpit, donc ça montre vraiment ce qui se passe au-dessus de son avion, à Kanami. On est avec lui, on le voit qui maintient le manche, on a sa main... En très premier plan, dans un bord de l'écran, on a une espèce de surcadrage avec la forme du cockpit, la forme de la fenêtre, et puis en dehors de l'avion, on voit l'autre avion, hein, l'avion du professeur avec la panthère noire. Bon, on la voit pas bien ici, mais on voit en tout cas le soleil qui reflète directement sur l'avion. C'est un plan qui est très très dynamique. C'est un plan qui a beaucoup de motion blur. Alors justement. Quand je te l'ai présenté, Boris, tu m'as dit que ça avait beaucoup de flou. En fait, pourquoi j'ai pris ce plan-là, c'est surtout pour son dynamisme. En fait, j'aurais pu prendre beaucoup de plans dans beaucoup de scènes de dogfight, mais en fait, c'est juste que quand je parlais d'un... C'est bien parce que je peux faire des renvois avec mon avis de l'intro, mais quand je parlais d'un film qui est bicéphale et aussi au niveau esthétique... On est vraiment là-dessus, c'est-à-dire qu'on a des séquences de gunfight qui sont virtuoses, quasiment, malheureusement, très courtes, et le côté virtuose dans les scènes de gunfight est aussi très court, hein. Ça, c'est vraiment un ou deux plans qui parfois s'enchaînent, parfois sont, vraiment on a des plans qui sont très dynamiques, et puis d'autres, après on fait plus des plans d'ensemble, et voilà, tout ça, on utilise aussi beaucoup les nuages pour masquer les choses, en tout cas jouer un peu avec le fait de perdre le spectateur et de lui faire perdre son orientation et tout ça. Mais en tout cas, on a un travail sur un dynamisme et on a une caméra qui est fondamentalement différente de ce qui se passe au sol. C'est-à-dire que la caméra en l'air va être d'un coup prise d'une espèce d'hyperactivité et d'une volonté de faire des choses qui font pumper le cœur, alors que le film lui-même n'a pas la volonté, vraiment dans ses thèmes et dans tout ça, n'a pas la volonté de vraiment faire pumper le cœur. Il aurait pu filmer ses séquences d'avion de beaucoup plus loin, poser une caméra de plus loin et juste filmer des avions, même animer des avions en 2D, qui se tirent dessus, et ça aurait été fini, quoi. Et en fait, ici, il fait vraiment le choix de mettre une caméra dans le cockpit, de faire bouger la caméra. En plus que dans le cockpit, on a vraiment des tremblements de caméra de partout. Caméra qui est très organique, alors que tout le film est complètement posé. Et moi, pour moi, c'est là où je me dis que Déjà, on sent que Oshii vient d'un autre domaine que l'animation traditionnelle, qu'il a touché à d'autres trucs, qu'il a touché au live action, et en fait, et qu'il a réfléchi un peu son sujet, mais qui, je pense, est complètement est un peu bloqué par tout ce qui fait la tradition de l'animation 2D actuelle, qui est justement très fixe et tout ça, et pour des problèmes de temps et les problèmes des contraintes de tout ça, en fait, je pense qu'il essaye de faire des percées comme ça et de s'en sortir et pour pouvoir, enfin, de se faire un peu des kiffs visuels et de mise en scène. Et en fait, du coup, le truc, c'est vraiment, on est littéralement sur un énorme, j'ai envie de dire, au final, moi, c'est ce que j'ai préféré, mais c'est littéralement quasiment un point gris dans le film, en fait. Je dirais pas un point noir, hein, bien sûr, mais c'est littéralement un point gris dans le film. C'est que le film veut raconter quelque chose, et au final, on a ces trucs-là qui sont limite des choses qui nous divertissent, mais nous divertissent dans le sens, nous, font perdre un peu le rythme du film, quoi. Comme si, en fait, le film racontait un truc, et au milieu, on nous mettait de la pub, quoi. Pou, 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 pou. Il y a des blocs comme ça où il se passe des trucs. Bon, alors, moi, c'est les séquences que j'ai préférées, bien sûr, mais c'est vraiment très disruptif dans le film, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça, c'est parce que j'ai pris un plan flou pour dire que, voilà, ces trucs-là, en fait, viennent rajouter un peu, encore un peu plus de flou dans le fait que déjà l'intrigue soit floue à la base, s'éclaircit un peu par la suite, mais soit floue à la base, et donc du coup, on est là-dessus, et on se dit, mais qu'est-ce que le film veut raconter, à la fois sur ses thèmes, on en apprend un peu plus au fil du film, mais aussi sur son esthétique.
C'est le « c'est quoi ton plan » méta-flou, en fait, que tu nous proposes.
Exactement. Et toi, Boris, c'est quoi ton plan ?
Alors, j'ai hésité entre deux moments du film, mais au final, c'est le deuxième que j'ai choisi parce que l'image m'a semblé plus forte et plus évocatrice par rapport à ce que le film voulait raconter. Mais je t'avoue qu'on n'est pas loin du 50-50.
Et c'était quoi ton premier, rapidement ?
Oui, parce que du coup, ouais, cette image-là, tu l'as pas. Alors, très rapidement, c'est cette première scène, c'est après la cuite de Kusanagi et le moment très particulier qu'elle a avec Kanami où sa façade va commencer à tomber vraiment pour la première fois. Et ce qui pourrait être très glauque à ce moment-là avec le fait qu'elle demande à Kanami si elle veut qu'elle le tue, tu sais, quand ils sont dans la voiture.
Ouais.
Et ben, ce truc glauque, en fait, ça devient plutôt une scène très intime et beaucoup plus mélancolique que dérangeante parce qu'on en sait un peu plus à ce moment-là sur eux deux. Et aussi, l'image, elle baigne un peu. En fait, ils sont sous un feu rouge, mais ça fait que l'image, elle baigne dans une teinte un peu rose et violette. Et cette image avec son visage triste, avec le flingue qui est pointé sur la tempe de Kanami... Bah, c'est un visuel que j'ai trouvé plutôt beau dans le contexte du film, malgré ce qu'il montre. C'est une image où j'ai dit « Ah tiens, c'est très particulier comme image, mais ça fonctionne quoi. »
C'est marrant parce que j'ai failli prendre un plan de cette séquence, et c'était le plan sur les mains, dont celle de Kanami
oui.
Empêche le chien du pistolet de s'actionner.
C'est ça, le gros plan sur leurs mains, sur le pistolet. C'est vrai que ça, c'est vraiment l'insert. Et
oui.
Pareil, l'image passe... Hein. Enfin, tout ce que cette scène veut dire passe par cette image-là, mais je trouvais le plan sur son visage était un peu plus marquant. Surtout qu'en plus, le truc de cette séquence-là, même de manière générale, et le point sur le pistolet, on va retrouver la scène presque de la même manière, mais plus tard. Mais par contre, tout est un peu, tu vois, en gris, en terne.
Absolument.
Donc, tu vois, c'est le fait que cette lumière, cette ambiance très spécifique, quand justement ils vont se balader dans la ville à inspiration polonaise, faire la partie de bowling, en fait, toute cette séquence-là. Il y a un truc qui se passe, en fait. Elle sort un peu du reste du film, mais c'était une séquence que je trouvais très, très marquante et très intéressante, en fait, aussi d'un point de vue esthétique.
Je suis tout à fait d'accord.
Et du coup, pour le vrai « C'est quoi ton plan ?» que j'ai choisi, c'est encore une fois, ça, je me rends compte que ça, je prends ça souvent, mais c'est le dernier plan du film, juste avant les crédits. Donc du coup, on est à 1h54 et 30 secondes. Tu sais, avec ce grand plan large sur la piste de lancement où le ciel prend quelque chose comme 90% de l'image, où t'as Kusanagi, sa fille et le chien qui sont de dos et qui attendent le retour de Kanami. Et tout simplement, en fait, le silence, le vide de cette image et le fait qu'on reste dessus un bon petit moment jusqu'à ce que même le chien s'en aille carrément du cadre, bah, ça lui donne une vraie puissance et je trouve que ça résume entièrement tout le discours du film sur l'existence et sa fin inévitable, tout en ayant un peu cette notion d'espoir un peu superficielle mais quand même capitale. J'aime beaucoup, moi, ces grandes images qui jouent avec ce qu'il y a dans un cadre et ce qui s'en en va pour donner une nouvelle signification à la même image, au même cadre. En fait, c'est tout bête, mais quand c'est bien fait, je trouve ça très fort. Surtout quand ça joue avec l'idée qu'on a une image avec un aspect un peu dépouillé et vide d'un plan, parce que très souvent, quand quelque chose est absent de l'image, ça lui donne une réelle importance et un vrai message, en fait, le vide qu'on ressent à ce moment-là, à cette fin du film, sachant en plus comment ce plan-là est récupéré pour le début de la toute dernière séquence post-générique et pour le coup, au tout début du film, c'est très spécifique, en fait. Ça donne un film très particulier et je trouve que l'image en elle-même, elle est très parlante. Moi, les grands plans, tu vois, les grands plans larges où il y a vraiment un rapport entre les personnages et leur environnement et le cadre, comment c'est utilisé, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et là, c'est cette image-là. En fait, quand elle a débarqué, j'ai dit « Ah ouais, d'accord, là, je vais être un peu obligé de prendre ça, quoi.
» Et je suis d'accord avec ça. Et surtout, en fait, l'efficacité, on va dire, de tel plan fonctionne sur le fait, justement, de tout ce que tu as pu installer entre le spectateur et entre tout ce qui a été installé entre le film et le spectateur jusque là, en fait. Justement, là ce truc là on pourrait le mettre au début du film et le remettre à la fin du film et on aurait deux lectures différentes du film.
C'est l'idée d'avoir cette même image mais remise dans un contexte avec deux significations différentes. Et c'est un peu tout ce qui est répété le long du film, tu sais, avec la manière dont le Kanami, tu sais, il fume sa cigarette et comment il pète son allumette en deux, on remonte beaucoup ça. On remonte le pilote qui plie son journal d'une manière très particulière. En fait, c'est ça, c'est un peu le gimmick du film, c'est qu'on te montre ça au début. Tu peux penser que c'est des détails un peu spécifiques et tu te demandes pourquoi il le montre. Et quand il te le remonte plusieurs fois, tu te dis ah oui, d'accord, il faut y faire un peu attention. C'est un peu pareil, c'est un peu ce qui retourne avec ce que je disais dans mon avis et par rapport au mystère du film, c'est que on te montre ces éléments-là, au début, tu n'y fais pas trop attention, on te le remonte une deuxième fois, mais sans jamais te dire « fais bien attention à ça, c'est très important », mais toi-même, tu comprends tout de suite que ces images-là ont une importance capitale et qu'elles veulent dire beaucoup plus que simplement ce qu'elles montrent. Et du coup, le dernier et le meilleur exemple de ça, c'est ce plan de fin. Donc, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire.
On a beau connaître par cœur le chemin qu'on prend chaque jour, le paysage nous semble toujours différent. Rien ne change. Pourtant, on découvre de nouvelles choses à chaque fois. Est-ce que ce n'est pas une bonne raison de vivre? Ou alors, ce n'est pas suffisant?
Attention, ennemi en vue! À 2 heures, même altitude. Ah, c'est un J2.
Bien reçu, on fait demi-tour.
Kern, où tu vas? Reviens!
Kern, je vais te couvrir.
Non, fais demi-tour. J'attends ce moment depuis longtemps.
On a beau connaître par cœur le chemin qu'on prend chaque jour. Pourtant, on découvre de nouvelles choses à chaque fois. Est-ce que c'est une bonne raison de vivre?
Je vais tuer mon père.
Et bien voilà, cet épisode sur The Skycrawlers de Mamoru Oshii touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film. C'est le dernier gros projet animé en date de son réalisateur, où il met encore une fois la science-fiction au service d'une critique complexe d'une société aliénante et de l'absurdité de la guerre, doublée d'un examen du monde de l'adolescence et de la condition humaine.
Comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion autour du film, c'est par là-bas que ça se passe.
De la même manière, si vous aussi vous voulez prendre part au jeu du C'est quoi ton plan, n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode votre plan ou votre scène favorite, avec une petite capture d'écran, c'est encore mieux. On est toujours très curieux avec Julien de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission, et peut-être aussi un peu curieux de voir qu'est-ce qui vous a plu, comme l'avait dit Julien, est-ce que c'est ces scènes dans les airs ou ces scènes un peu plus terre-à-terre.
Absolument. On compte aussi toujours sur vous pour partager l'émission autour de vous, que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste, le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens PodCloud et Spotify, Tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Alors un grand merci à vous d'avance, ça fait toujours plaisir.
Encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve dans notre prochain épisode consacré au film de Mamoru Hosoda qui va clairement le faire entrer dans la cour des grands de l'animation japonaise, où il va inventer un nouvel univers parallèle fantastique et délirant pour nous parler de la place et des limites des réseaux sociaux et de la technologie dans notre vie, tout en nous offrant une belle réflexion sur l'importance et les bienfaits de l'empathie et de l'entraide. On vous parlera de tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur Summer Wars. À la prochaine donc, et ciao bye.
Salut tout le monde.